Le débat du jour. Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. L'Assemblée générale annuelle des Nations Unies démarre aujourd'hui au siège de l'organisation à New York. Un an après l'entrée tonitruante de Donald Trump dans les cercles onusiens et après de multiples coups portés au multilatéralisme, l'ONU peine à peser sur certaines crises. Son influence semble se réduire à un rôle de constatation des dangers sans pouvoir réellement prévenir des catastrophes, notamment humanitaires. La baisse des moyens et des contributions, notamment américaines, sur certains dossiers n'aide pas non plus cette organisation où 193 États sont représentés. L'ONU est-elle devenue la bonne conscience de la communauté internationale? C'est la question du jour. Et pour tenter d'y répondre, deux invités sont avec nous en studio. Pauline Liétard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, vous avez réalisé de nombreux reportages et enquêtes pour différentes émissions de télévision d'information et vous êtes l'auteur du livre « ONU, la grande imposture », c'est aux éditions Albin Michel, c'est sorti l'an dernier. Et Jean de Glignasti, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ancien ambassadeur de France en Russie et ancien directeur ONU au Quai d'Orsay, directeur de recherche à l'IRIS, enseignant et auteur du livre « Géopolitique de la Russie », c'est aux éditions Erol. L'ONU, c'est donc 193 pays représentés, soit la quasi-totalité de l'humanité, plus de 5 milliards d'euros de budget bisannuel, hors opération de maintien de la paix. Ce sont donc des moyens importants, 41 000 fonctionnaires, et pourtant, on a l'impression que l'organisation peine à accomplir ses missions, notamment sur le maintien de la paix. Pourquoi, d'après vous, Pauline Liétard?
Moi, j'ai l'impression, quand on regarde les missions de maintien de la paix sur le terrain, que toutes ces dernières missions se passent mal. Certaines s'achèvent en fiasco, comme celle d'Haïti, qui s'est soldée par une énorme épidémie de choléra. Et le problème, c'est qu'on envoie des casques bleus qui viennent du bout du monde, parfois, comme qui viennent du Bangladesh. Le Bangladesh envoie des casques bleus pour pour l'argent que ça leur rapporte, mais en fait, ils envoient des casques bleus qui n'ont aucune notion des enjeux politiques du terrain et qui sont là juste pour la solde et pas tellement pour rétablir la paix.
Jean de Glignasti, vous partagez ce sentiment que l'ONU peine un peu à être efficace?
Ben, ça dépend de la mission qu'on lui donne. C'est relativement récent, les opérations de maintien de la paix avec une telle ampleur dans l'histoire de l'ONU. Au départ, l'ONU, elle mettait des casques bleus pour sauvegarder un accord de paix qui était déjà signé et une situation qui était déjà stabilisée.
Pour figer une situation, quelque part.
Figer ou faire respecter un accord. De plus en plus, on a tendance à utiliser l'ONU pour essayer d'améliorer une situation. Et là, évidemment, c'est plus compliqué. En matière militaire, il faut bien voir qu'il y a une espèce de courbe inverse, proportionnalité inverse, entre la légitimité d'une opération et l'efficacité d'une opération. La façon d'être le plus efficace, c'est d'être tout seul, d'envoyer ses parachutistes et de régler une opération. Mais ça, évidemment, ça n'est pas pris sur le plan international.
Ça n'est pas très multilatéral.
Voilà. En revanche, si vous avez l'ONU, vous avez un beau tampon, tout le monde trouve ça formidable, mais évidemment, c'est moins efficace. Alors, il faut choisir ou mettre le curseur au bon endroit.
Actuellement, il y a 14 opérations de maintien de la paix en cours, dont une en Haïti, dont vous avez parlé. Pour quel résultat, Pauline Liétard? Est-ce que vous en voyez certaines qui sont plus efficaces que d'autres?
Bah, dans le passé, certaines opérations comme en Namibie, au Timor, au Sierra Leone, ont été considérées comme des succès. Mais par exemple, une autre mission qui fonctionne pas, c'est celle du Darfour, qui est vraiment gangrénée par la corruption, où on se rend compte sur le terrain qu'il y a d'énormes gaspillages d'argent. Quand on parle avec les personnes envoyées sur le terrain, elles sont vraiment frustrées parce qu'elles voient à la fois des massacres et en même temps très peu d'actions.
Alors, la question des moyens, l'ONU a besoin de plus de moyens pour accomplir ses missions, selon vous, Jean de Glignasti, ou c'est une question de mandat politique?
C'est une question de mandat. Alors, en ce qui concerne l'opération du maintien de la paix, c'est très clair qu'il y a une adéquation entre les moyens et les opérations qui sont décidées, puisque c'est un financement ad hoc, avec une clé ad hoc.
C'est ce qu'on disait, hors budget global des Nations Unies.
Budget global des Nations Unies. Alors, on peut se tromper dans l'évaluation des besoins financiers, mais en gros, les besoins sont adaptés à la tâche qui a été définie. Alors, si les forces de l'ONU, les casques bleus, n'arrivent pas à remplir cette tâche, alors évidemment, il faut revenir devant le Conseil, augmenter le budget, Mais a priori, ce n'est pas forcément une opération, une question de financement.
En préparant cette émission, je me suis aperçu que les casques bleus avaient parfois des difficultés matérielles qui font d'eux des cibles faciles, voire privilégiées. C'est le cas en RDC, c'est le cas au Mali, Pauline Nieta.
Oui, parce que parfois...
Il y a une inadéquation des moyens.
Oui, parce que parfois, les pauvres, ils arrivent avec les mauvaises bottes, le mauvais équipement fourni par leur pays, qui s'est intéressé uniquement à la compensation qu'il va recevoir pour avoir envoyé des troupes. Parce qu'il y a des compensations très, très intéressantes pour les pays, notamment du tiers-monde. Et des casques bleus non formés, et qui après aussi vont peut-être... être impliqués dans des scandales d'abus d'enfants, etc., parce qu'ils sont pas formés, pas encadrés, et aussi des cibles, du coup, pour des attaques. Oui.
Ouais, tout le monde ne contribue pas au budget comme il le devrait. C'est une des questions qui est souvent soulevée, Jean de Glignasti. On pense notamment, évidemment, aux États-Unis, qui ont une dette vis-à-vis des Nations Unies, et qui en plus se désengagent de certains dossiers. L'UNRWA, par exemple, l'Office des Nations Unies pour l'aide aux réfugiés palestiniens. Ça, c'est un problème qui dessert la cause onusienne.
Alors, évidemment, ça dessert la cause onusienne. Les Américains sont coutumiers du fait. Il y a toujours eu au Congrès américain une forte minorité, qui parfois était une majorité, qui refusait purement et simplement de payer la cotisation, si je puis dire, des États-Unis.
Selon la quote-part qui est calculée tous les deux ans, je crois, c'est 22% actuellement.
22%, voilà, oui.
Pour les États-Unis, c'est le maximum d'ailleurs qu'on puisse payer. Ça a été fait à la demande des Américains.
Ouais. Donc c'est lui qui compense.
Et donc traditionnellement, les Américains sont de mauvais payeurs à l'ONU, parce que même du temps de Clinton, même du temps de Bush, on disait on ne veut pas de gouvernement du monde. Donc il y a une hostilité de principe de la droite américaine vis-à-vis de l'ONU. Alors elle est portée à son paroxysme maintenant avec Trump. Ce qui est clair, c'est que l'UNRWA, c'est pas le budget ordinaire de l'ONU. Et là, l'UNRWA s'est financé en grande partie par des contributions volontaires. Quand les Américains ne les donnent pas, ben l'UNRWA se porte mal. Je crois que c'est une bêtise, parce que ça va sauter assez rapidement si l'UNRWA ne fonctionne pas. Qui a vu fonctionner l'UNRWA ne peut être qu'admiratif pour la faction de la façon dont l'UNRWA fonctionne.
Et d'ailleurs, les employés de l'UNRWA, on l'a appris là, il y a quelques heures, sont en grève aujourd'hui, notamment dans la bande de Gaza. Pauline Liétard, ce problème de financement, ça explique une partie de ce qui ne va pas à l'ONU pour vous, ou pas uniquement ?
Pas forcément, il y a surtout un problème de gestion de l'argent. Mais après, ce qui est clair, c'est que là, il y a une pression américaine sur les financements. Alors,
parce qu'il y a l'UNRWA, il y a aussi l'UNESCO, dont les États-Unis sont désengagés.
Il y a aussi un fonds pour le planning familial, dont Trump s'est retiré aussi assez vite. Et il y a une peur sur le HCR, pour lequel les États-Unis contribuent à une grande proportion. Donc effectivement, ça peut mettre une pression aussi qui peut être positive, c'est-à-dire qu'en interne à l'ONU, le porte-parole de l'ONU reconnaissait que ça pouvait pousser à mettre en place des réformes, puisque Trump, en gros, en veut pour son argent. Après, il y a aussi un vrai problème de gestion de l'argent, de toute manière, à l'ONU, avec d'énormes gaspillages. Donc, il y a aussi un problème de gestion au départ, une grande administration qui fonctionne mal.
Alors, on va en reparler de cette réforme des Nations Unies, mais pour poser la question à l'envers, j'ai envie de vous demander à chacun, qu'est-ce qui fonctionne bien à l'ONU, Jean de Glignasti ?
Encore une fois, l'ONU elle-même, c'est d'abord un organe politique. Et donc un organe politique, ça fonctionne bien ou mal selon les circonstances internationales. L'ONU a été bloquée pendant toute la guerre froide, puisqu'il y avait un veto russe, et donc l'ONU ne fonctionnait pas. Ensuite, il y a eu une période, mais il fonctionnait pas, j'allais dire de façon opérationnelle, mais c'était un extraordinaire forum, d'échanges,
une caisse de résonance.
Ouais. Bon. Ensuite, il y a une brève période après la chute du mur de Berlin et la fin de l'Union soviétique, où l'ONU a fonctionné par consensus, mais un consensus assez artificiel, puisqu'en fait, il ne faisait qu'illustrer la faiblesse de la Russie, qui n'affirme pas ses intérêts. Mais en gros, on arrivait à faire des choses. Ça a été d'ailleurs le moment de l'explosion des opérations de maintien de la paix. Et puis, maintenant, nous sommes à nouveau dans une ONU, où au Conseil de sécurité, il y a la Chine, qui maintenant s'exprime beaucoup plus souvent qu'avant, et puis il y a la Russie qui retrouve, disons, sa vocation à défendre ses intérêts. Donc, il y a un certain blocage politique, c'est clair. Mais ce blocage politique ne fait que refléter, et c'est ça le positif, et c'est pour ça que l'ONU a été conçue, ne fait que refléter le rapport de force international.
Je vous pose la même question, Pauline Niétard. Qu'est-ce qui fonctionne bien à l'ONU, même si vous êtes plutôt critique dans votre livre, notamment?
De toute manière, l'ONU doit exister, forcément, et ça, on ne peut pas se passer de l'ONU. Moi, je pense que ce qui fonctionne bien, c'est la marque ONU, c'est-à-dire qu'il y a toujours une voix de l'ONU qui est entendue dans le monde. Quand l'ONU parle du climat, on l'écoute. L'ONU attire des gens brillants, compétents, qui ont énormément d'envie de changer le monde. Bon, après, ils sont confrontés à la réalité de la machine onusienne qui fonctionne mal. Mais voilà, je dirais que c'est l'image de l'ONU encore globalement qui se défend et on a besoin de l'ONU.
Vous en parliez à l'instant, vous vouliez réagir, Jean-Louis.
Oui, parce que l'image de l'ONU, enfin, on dit l'ONU, 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 mais l'ONU n'est que la somme des États qui la composent. Donc, il y a certes une image de l'ONU, mais c'est peut-être le secrétariat, mais le secrétariat est aux ordres des membres du Conseil de sécurité, du Conseil de sécurité. Donc, en fait, l'image de l'ONU, en fait, c'est avant tout ce que les États-Unis, la France, la Chine, la Russie, etc. veulent bien en faire.
Quand on
verrouille le secrétaire général, il ne fait rien. Ou bien alors il se fait tuer comme Dag Hammarskjöld.
Alors, ouais. Et je crois que savoir qu'il y avait peut-être des nouvelles informations qui vont sortir sur cette histoire dans les prochains mois. Et je me suis laissé dire qu'un livre était en route là-dessus. La mondialisation, vous en avez parlé, surtout l'importance des questions de niveau planétaire, sur le climat notamment, est-ce que ça ne devrait pas renforcer le rôle de l'ONU, Pauline Niétard ?
Si, mais la problématique, encore une fois, c'est d'arriver à avoir un consensus entre des pays qui divergent, qui n'ont pas forcément les mêmes enjeux concernant le climat. Et quand on voit que Trump s'est retiré de l'accord de Paris, l'ONU a rien pu faire. Et c'est compliqué de mettre à table tout le monde et de les mettre d'accord sur ces dynamiques-là. Un bon côté sur le climat, une bonne chose, c'est que maintenant, par exemple, la Chine commence à s'y intéresser, à être vraiment sensible à la thématique du réchauffement climatique parce que les Chinois en sont les premiers victimes aussi dans les villes très polluées.
C'est sans doute la Chine qui, parmi les pays en développement ou très développés, fait le plus d'efforts sur cette question, effectivement. L'ONU n'est-elle pas essentiellement une tribune ? Elle annonce des catastrophes humanitaires, les Rohingyas, le Yémen, ce qui risque de se passer à Idlib. Mais elle ne parvient que très peu à les enrayer, Jean de Lignasty. C'est un rôle essentiel, ça, de prévenir ?
Le rôle, il n'y en a pas d'autre, de tribune où tous les États sont représentés, où on peut sentir quel est l'air du temps de la planète. Ça, c'est très important. Et alors, ensuite, si on se met d'accord, on se met d'accord. Si on ne se met pas d'accord, on ne se met pas d'accord. Mais l'ONU n'y est pour rien. L'ONU, c'est une espèce de c'est un organisme où des majorités d'États, les plus puissants d'ailleurs, décident de faire des choses. Mais on ne peut pas accuser l'ONU de quoi que ce soit. L'ONU, c'est nous.
Le problème fondamental, vous commenciez à le dire tout à l'heure, c'est le fonctionnement, et notamment les 5 membres permanents depuis 1945, alors que le monde est quand même un petit peu bougé, Pauline Niétard, depuis 1945.
C'est un problème, justement, le manque de représentativité du Conseil de sécurité. Bon, tant mieux pour la France, elle en fait partie, en membre permanent, mais on peut imaginer, par exemple, que des pays comme le Brésil ou l'Allemagne en fassent partie, ils auraient leur place dans le Conseil de sécurité.
Jean de Lignasty, c'est un problème pour vous, cette composition un peu arbitraire ou ancienne du Conseil de sécurité ?
Ça va être un problème pour la France, plus le temps va passer. Je ne dirais pas un manque de représentativité, parce que le Conseil de sécurité représente en gros quand même actuellement les 3/4 du PIB de la Terre, et, parce que si, même si vous retirez l'Inde, rien qu'avec la Chine, les États-Unis et l'Europe, vous avez une certaine représentativité. Mais il est clair que pour la France, c'est d'un grand intérêt d'élargir l'ONU maintenant, tant qu'on y est, et tant qu'on est encore la 5e puissance mondiale, parce que on l'élargit à nos conditions, puisque c'est le Conseil de sécurité qui décide, en gros. Et donc, nous avons intérêt à le faire. Malheureusement, c'est bloqué parce qu'il y a des couples diaboliques, si vous voulez. Le Mexique ne veut pas que le Brésil rentre. Le Pakistan ne veut pas, que, et ni la Chine d'ailleurs, ne veulent que l'Inde rentre. Oui. Et tout est comme ça. Et malheureusement, cette situation est gelée. Et ce qui conduit d'ailleurs à l'apparition d'autres forums beaucoup plus partiels. Le G20 joue un rôle très important, puisque là, les plus grandes puissances sont toutes représentées, y compris les États-Unis, y compris la Chine, y compris l'Inde, y compris le Mexique. Et donc, c'est une perte de substance pour l'ONU, et notamment, l'ONU traite moins bien, finalement, les questions de sécurité, qui sont le cœur de sa compétence.
Pauline Liétard, une réforme a été annoncée l'an dernier, notamment par le secrétaire général, Antonio Guterres. Où est-ce qu'elle en est ?
Mais il est arrivé avec plein de bonnes intentions, ce qui est assez louable. Il avait fait un beau boulot au HCR. Les gens fondaient beaucoup d'espoir sur son arrivée, un peu comme sur l'arrivée du pape François au Vatican, c'est-à-dire qu'en interne, les gens attendaient beaucoup de lui. Après, je crois qu'il se heurte aussi à l'immobilisme de la bureaucratie onusienne.
De l'institution, hein.
Ouais,
un peu voilà. Comme le pape François, peut-être.
Peut-être aussi.
Jean de Gdignasty, cette réforme, il faut qu'elle aille dans quel sens ?
Je dirais deux choses. La première, c'est que cette réforme, c'est un grand serpent de mer et c'est une invention permanente, une légitime défense permanente de l'ONU face aux menaces que les États-Unis profèrent à son égard. En disant, il faut payer, vous allez voir, on va s'améliorer. Bon, ça, c'est, il n'y a rien de nouveau. Kofi Annan l'a fait, Ban Ki-moon l'a fait, et Guterres le fait. Alors, il y a des améliorations ponctuelles qu'on peut apporter, bien entendu. Mais il faut bien voir que nous sommes dans une bureaucratie avec 193 États membres. Donc ça ne se gère pas comme la mairie de Paris même, qui est déjà quelque chose de compliqué, si je comprends bien. Mais c'est très compliqué de gérer une bureaucratie avec 193 États membres, parce qu'il faut répartir les places, parce que chacun a son mot à dire, parce que le Conseil de sécurité a un poids particulier. Il a des postes qui lui reviennent d'office. Donc, encore une fois, il y a un curseur à trouver entre l'efficacité et la légitimité. Et alors, on le fait bouger de temps en temps. C'est ça, la réforme de l'ONU.
Pauline Liétard, qu'est-ce qu'il faudrait, selon vous, pour avoir une organisation des Nations Unies plus efficace, qui utilise mieux son argent?
C'est alors, je comprends que, comme toute grande organisation, toute grande administration, l'ONU se heurte aux mêmes difficultés, qu'on peut voir dans d'autres grandes organisations. Mais après, il y a quand même, par exemple, des bureaux spécialisés pour entendre les plaintes des lanceurs d'alerte, qui sont des bons moyens pour réformer localement, notamment quand il y a des gros problèmes dans des missions. Et moi, en tant que journaliste, j'ai pu en rencontrer, et je trouve ça assez hallucinant de voir que ces lanceurs d'alerte, alors qu'ils sont à l'ONU, ils sont pas entendus, mais pire, victimes de représailles. Moi, je trouve que déjà, si on donnait plus de place à ces gens qui dénoncent des dysfonctionnements, on pourrait améliorer point par point des gros problèmes.
Est-ce que c'est la réforme à la Guterres ou à la Donald Trump, c'est-à-dire un dépeçage progressif des missions de l'ONU et une forme d'unilatéralisme qu'il emporte actuellement, Jean de Gdignasty?
La réforme de l'ONU, c'est un processus permanent quand même. C'est une grande administration. Et donc, c'est une administration qui, en permanence, essaye d'améliorer son fonctionnement. Et personnellement, je considère ça avec un certain scepticisme parce que c'est des États membres, c'est des personnalités différentes, parce que c'est très difficile. Et les considérations politiques interviennent au maximum dans ce genre d'organisation. En ce qui concerne la perte de substance du fait de la pression américaine, sans aucun doute. Ça, c'est pas... c'est même en dehors même de la réforme. En dehors du rideau de fumée que la réforme... Mais qui ne sert à rien pour dire, voyez, on se réforme, donc Américains continuent à payer.
Dernière question que je vais vous poser à tous les deux. Il nous reste quelques secondes et qui pourrait faire l'objet d'un débat à elle seule. La communauté internationale existe-t-elle? Est-ce qu'il n'y a pas surtout des intérêts bien compris, Pauline Liétard?
Quand on regarde l'ouverture de l'Assemblée Générale, on a l'impression qu'elle existe. Quand on regarde les coulisses, on se rend compte que c'est les intérêts particuliers de chaque pays qui ont tendance à primer et qu'il y a des arrangements bilatéraux entre chaque...
Moi, la communauté internationale, c'était tout simplement le monde occidental.
Qui a signé la charte de l'ONU en
1945. Qui a signé la charte de l'ONU et qui se représentait lui-même comme la communauté internationale. Le mot communauté internationale n'existe pas en chinois, en indien et ailleurs.
Merci beaucoup Jean de Gdignasty, merci également Pauline Liétard d'avoir participé à cette émission. Merci à toute l'équipe du débat du jour, Florence Ponce à la coordination, Simon Carteret à la documentation et à la réalisation aujourd'hui, Hélène Avril. Vous pouvez nous retrouver, nous réécouter, nous podcaster sur notre site internet rfi.fr. Et sur les plateformes mobiles avec notamment l'appli RFI Pure Radio, rubrique magazine. Prochain débat mercredi, même en même endroit. Demain, c'est mardi politique. Bonjour chez vous.